Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée aux grands enjeux de la viticulture. Aujourd'hui et demain, on est parti pour 8 heures d'émission en fait, donc je plaisante, une bonne demi-heure. Et nous sommes délocalisés et en public à Montagnac, entre Montpellier et Béziers, juste à côté de la cité de Pézenas. Il y a du soleil partout, on est très heureux et avec des gens très sympas. Notamment, nous sommes accueillis par les domaines Paul Mas, en présence du patron Jean-Claude Mas. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Alain.
Merci d'accueillir pour la deuxième fois Invino Sud Radio. Jean-Claude, dites-nous, si je vous dis sommelier, vous pensez à quoi? Est-ce que ce sont des gens importants pour vous? Ce sont des prescripteurs, des gens que vous aimez ou pas?
Alors les sommeliers, je pense qu'il y a, il y a plusieurs types de sommeliers. Il y a ceux qui ont le talent de sommelier et ceux qui ne l'ont pas.
Donc noms peut-être de sommeliers un peu véreux ou mauvais, non? C'est non. Alors, on oublie ça.
On en a un à côté de nous qui est Philippe, qui est meilleur sommelier du monde en 92. Donc on va dire qu'il est.
Mais c'est important pour vous, faire la promotion des vins.
La promotion des vins aujourd'hui est essentielle avec les sommeliers. Le problème, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les sommeliers se font d'abord plaisir à eux-mêmes avant de faire plaisir aux consommateurs dans l'ensemble. Souvent, je me suis trouvé confronté à m'expliquer que tel vin est bon parce qu'il est d'un petit vigneron qui fait du vin naturel.
Ouais, c'est le petit château, petit domaine, petit vigneron.
Cette notion de petit qui existe, alors qu'il existe des très grands vins.
Mais produits en quantité exceptionnelle.
Prenez Grange en Australie, ouais. C'est exceptionnel.
Bon Philippe Orbach.
Alors, droit de réponse, bonjour.
Oui, bonjour Philippe Orbach est parmi nous. Vous êtes spécialement de Paris pour être passé ces deux jours, aujourd'hui et demain. Vous êtes, on le rappelle, un président de la sommellerie française. Comme disait Jean-Claude, meilleur sommelier du monde, millésime 92. Partagez cet avis ou pas, ou polémique un peu, ça dépend desquels.
C'est vrai qu'il faut faire plaisir, bien sûr, mais savoir faire plaisir aux autres, c'est le plus important.
On travaille pour les gens.
Voilà. Et la finalité, le patron d'ailleurs dans un restaurant, c'est le consommateur.
Oui,
c'est le client qui paye tout à la fin du mois, il ne faut pas l'oublier.
Alors aujourd'hui, pour cette émission qui prêche, comme d'habitude, comme chaque week-end, depuis 854 émissions, je crois, la consommation modérée et responsable. Un troisième invité, c'est le plus sympa de loin, Moshi Bernstein, qui est directeur pour la France de Netafib. Bonjour Moshi.
Bonjour Alain.
Alors un petit mot sur votre société. On va parler d'eau avec vous. C'est quand même paradoxal sur Invino Sud Radio.
Oui. Netafib, c'est une société qui a donné naissance à l'irrigation de goutte à goutte il y a 50 ans dans ce petit kibbutz en sous des déserts d'Israël. Et aujourd'hui, Netafib, c'est le leader mondial de l'irrigation de goutte à goutte, irrigation de la précision. Il a beaucoup de normes goutte à goutte, précision, local, etc. Et nous sommes responsables la plupart de goutte à goutte mondial, 30% plus ou moins.
30% de part de marché au niveau mondial.
Au niveau mondial d'irrigation. Oui.
Et donc vous, votre périmètre, Moshi, c'est la France. Vous êtes le patron
de la
France.
Oui, c'est la France. Oui.
Alors avant de parler de l'importance de l'eau dans le vin quelque part, Jean-Claude, un petit mot sur votre société, votre groupe. Vous en avez hérité, vous l'avez créé. Racontez-nous votre très jolie histoire entrepreneuriale.
Alors, les domaines Paul Mas ont 20 ans aujourd'hui. Je les ai créés au nom de mon père, Paul Mas. À partir d'un petit domaine de 35 hectares, dont environ une trentaine étaient à restructurer. Ma première production a été de 14 000 bouteilles. Aujourd'hui, disons, l'ensemble des domaines représente 15 domaines, qu'en Languedoc, couvre tout le Languedoc.
Ça, c'est un choix personnel, hein, Jean-Claude, Languedoc.
Ah oui, je reste Languedoc. C'est parce que j'ai beaucoup voyagé dans le monde que je reste 100% Languedoc. Ouais.
Et aujourd'hui, donc, combien d'hectares au total et
on
combien
a 850 hectares, 45 cépages produits, 45 différents cépages. 15 appellations en Languedoc.
Ouais. Et les cépages, alors justement, on trouve des choses étonnantes, hein, des cépages autochtones et d'autres qui sont plus exotiques par rapport à la région.
Alors, il y a tout type. Il y a les cépages qui sont autochtones, on va dire les Carignans, les Grenaches, les Rolls ou Vermentino, les Terrés, le Picpoul. Et ensuite, il y a les cépages qui sont venus plus ou moins, il y a plus ou moins longtemps, Chardonnay, qui est arrivé il y a assez longtemps à Limoux. Aussi le Viognier, qui est venu. On va dire ça fait 30 ans qu'on a planté du Viognier, les Cabernets, les Merlots, donc cépages atlantiques, cépages septentrionaux. Et après, il y a des cépages qu'on a développés nous-mêmes, parce qu'à Marseille, on a quand même un des endroits qui est la sommité dans le monde pour le développement à Pêche Rouge et Marseille, qui sont les deux sites probablement les plus importants au monde dans le développement des cépages. C'est là où on a inventé le Marcellan, que les Chinois essaient de nous piquer. Alors on va être sûr de rappeler qu'il vient de Marseille, le Marcellan.
Philippe, on peut planter des types de cépages partout dans le monde. C'est-à-dire que là, ici, 45 dont parlait Jean-Claude, pourquoi pas 75. Enfin, c'est-à-dire que ça s'adapte à tout, la vigne?
Non, on peut planter, on peut faire des essais de plantation, en tout cas un peu partout. Et puis après, il y a des cépages qui sont plus ou moins tardifs. On les classe, cépages précoces, cépages classiques et cépages tardifs. Et donc la limite, c'est le climat, tout simplement. Le sol pourrait éventuellement être aussi un frein. On utilise des porte-greffes qui sont plus ou moins adaptés justement à la nature du sol,
d'accord,
aux contraintes du sol, mais c'est surtout le climat. Donc on s'aperçoit, et c'est un très beau sujet d'actualité, qu'avec l'évolution du climat, il va y avoir, ou il faut penser en tout cas, voire anticiper une différenciation dans les cépages aujourd'hui plantés.
Alors Moshi, on revient donc sur votre société, votre métier, on parle de l'eau. En quoi c'est important? Racontez-nous.
C'est important d'irrigation. Et pour comprendre l'irrigation, il faut comprendre que l'irrigation de la précision est née d'une vraie nécessité. Elle est née en Israël pour le climat israélien, mais les concepts de surmonter les conditions climatiques problématiques qui existent depuis toujours en Israël. Aujourd'hui, ce monde, le processus de désertification continue à monter. On le voit ici en France.
En Israël, vous avez combien d'hectares de vignes à peu près?
Je ne sais pas combien.
Philippe Arbac, ça c'est une question pour un champion du monde de la sommellerie. Voilà. À 2-3 hectares près, Philippe. On va vous excuser. Là, s'il donne la réponse, attention.
Non, je vais réserver mon droit de réponse. Bon. Mais on vous donnera ça à la fin de l'émission.
Voilà. Donc la genèse était Israël, parce qu'il y avait une problématique liée à la chaleur. Quoi.
Oui, exactement. Mais aujourd'hui, en niveau mondial, il faut comprendre que le défi le plus important de notre siècle, c'est de nourrir du monde. Il faut irriguer. On parle d'irrigation de mass production, comme on dit en anglais. Et pour nourrir du monde, il faut trouver de nouvelles technologies, une nouvelle solution pour produire plus.
Produire plus, comme.
Produire plus.
Sauf en raisin. Hein. Netafim, aujourd'hui, ce qui se développe dans le raisin, c'est arriver à rétablir les équilibres fondamentaux de la vigne.
Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous, là, sur vos différents hectares, Jean-Claude?
Le problème de l'eau, aujourd'hui, n'est pas... En fait, c'est un faux problème, on va dire.
Plus, est-ce qu'on a le droit, déjà, d'arroser autant qu'on veut?
C'est complexe. En AOP, il faut des dérogations. En IGP, c'est plus facile. Mais la problématique fondamentale, c'est qu'on a appauvri nos sols avec 50 ans de chimie, qui fait que nos sols vivent moins d'oxygène. Donc la cinétique de l'eau dans le sol a été modifiée. À partir de là, il faut des palliatifs. Les palliatifs qu'on a aujourd'hui sont, entre autres, l'irrigation par goutte à goutte. Mais ça ne suffit pas. C'est coller une rustine sur le problème. Il faut repenser en profondeur la vigne, le porte-greffe, le clone, le cépage, et le travail du sol. Ça, c'est la clé pour pouvoir avancer. Le développement qu'on fait avec Netafim, moi, qui m'a surpris, c'est qu'aujourd'hui, en climat méditerranéen, il faut surtout parler de Méditerranée. On parle de changement climatique.
Bon, moi, concerne tout le monde, quand même, Jean-Claude.
Je vous avouerai que ça concerne tout le monde.
Il y a du vin en Normandie, par exemple.
Mais en Méditerranée, ça a toujours existé. On a eu des périodes un peu comme on a aujourd'hui qui ont toujours existé, mais ça fluctue d'une zone à l'autre. On parlait d'Israël qui est une zone où il y a des zones de désertification. Ou ici, par exemple, cette année, on a des pluies qui sont proches de climats désertiques, comme on a eu en 2016. Donc, tout ça, changement climatique ou pas, en tout cas, il y a déjà des fondamentaux qu'on n'a pas assez bien respectés pour faire venir la vigne. Donc, il faut les rétablir. Grâce à l'irrigation aujourd'hui de précision, ce qu'on arrive à faire, c'est comprendre ce qu'il faut pour irriguer. Parce qu'il faut, c'est bien parlé d'irriguer, mais il faut de l'eau. Il faut la trouver, l'eau. Et l'eau, elle n'est pas disponible comme on veut. Par exemple, les process que Netafim a mis en place chez nous, le VRDI, n'a pas fonctionné cette année. On est en train d'ajuster parce qu'on manque de pression d'eau.
Vous manquez de pression d'eau. D'ailleurs, Jean-Claude, vous êtes en pleine vendange en ce moment. Le raisin, il est comment cette année? Il est abondant? Il est petit? Il est grand?
Alors, le raisin, cette année, c'est la nature qui parle. Les cépages venus d'autres régions, il y a très peu de raisins. Ils sont très bons. Ils sont exceptionnellement bons.
Donc,
de qualité.
Bon, ça veut dire sucré aussi?
Sucré, avec des arômes, des beaux équilibres. En revanche, les cépages traditionnels, le Vermentino, le Grange, c'est bluffant, voir les Cinsault. Ils s'expriment à merveille. Et là, on redécouvre qu'avec un climat comme on a cette année, on peut faire des vins exceptionnels à partir de nos cépages traditionnels.
Philippe, un petit commentaire
sur les cépages. C'est assez logique que les cépages traditionnels, effectivement, dans un environnement justement particulier, s'expriment mieux, heureusement. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est l'histoire aussi qui a fait l'expérience, qui a fait
que petit à petit, on a choisi ce cépage pour telle ou telle région. Alors, le problème de l'eau est un problème effectivement récurrent, on l'aperçoit. Il y a des vignes qui ont grillé cette année. Il y a eu des images un peu choc.
Alors, les vignes qui ont grillé, par exemple, au Maroc, en Algérie, avant, à l'époque où il y avait pas mal de vignes, il y avait l'effet Sirocco. Et l'eau servait à éviter l'effet Sirocco, c'est-à-dire qu'on vaporisait de l'eau, on faisait tomber la température. C'est-à-dire
La nuit, dans la journée, à quel moment?
Non, c'est surtout dans la journée que ça se passe, avec le soleil, évidemment, la réverbération. Donc, l'effet de l'eau va tomber de 1 ou 2 degrés. C'est 2 degrés stratégiques. Là où ça a brûlé, je pense qu'on a passé les 45 degrés. Il faut savoir que la vigne...
45 degrés ici?
Oui.
Été, c'était quand même le record de...
Oui, et ça a été un jour. Ça a été un jour.
Mais ça, c'est... Quelques heures suffisent.
Voilà, quelques heures suffisent. Mais ça, c'est quelque chose qui est connu au Maroc, par exemple, qui est connu à
Le Chergui. On parle du Sirocco, mais c'est aussi le Chergui, le nom du vent que l'on trouve là-bas, du côté du Maroc.
J'ai entendu parler Sirocco. Après, c'est probablement d'autres vents. Oui. Ici, on a plusieurs vents. Oui.
Donc, Philippe, cette problématique liée à l'eau, ça va... Est-ce que ça change le goût du vin, d'ailleurs, in fine?
Ça influence. Quand on a des raisins qui grossissent pas, quand on a des concentrations différentes, quand on fait monter automatiquement le niveau d'alcool, parce que ça, c'est un des sujets importants, effectivement, ça change le goût au final du raisin et du vin.
Je vais lancer un débat, là, parce que c'est une année complètement incroyable. Le sucre n'a pas vraiment monté. On a rentré des blancs qui devraient être à 14-15 degrés et qui sont à 11,5.
Et alors, c'est quoi? C'est
je sais pas,
non?
Je sais pas.
Bon, alors, Philippe, c'est paradoxal. Moshi, vous avez un avis un peu sur cette problématique?
C'est pas forcément un blocage de maturité, puisque c'est sur des zones irriguées.
Bon, vous avez mal arrosé, Moshi.
Ça dépend des lieux.
Mais pas encore. Mais en fait, en France, en total, statistiquement parlé, il y a pas plus que 8%, peut-être 50 000 hectares en total des vignobles qui sont irrigués en France.
Combien vous dites?
C'est 8%, c'est fait sur 800 000, oui, presque 50 000. C'est très connu, le plus connu, c'est à Bouches-du-Rhône, à 13, mais ici, dans la région, il y a 12% d'irrigation. Mais à mon avis, il y a des caractéristiques spécifiques.
Eh ben, vous en avez parlé. Merci à tous les trois. Dans un instant, retour ici, au domaine Paul Mas, toujours dans un climat très sympa. Il fait très, très beau. On n'a pas de problème d'eau ici pour parler d'un sujet étonnant. Les maladies de la vigne, ça existe. Elles arrivent, de nouvelles maladies aussi. Et de deux cépages à découvrir ou à redécouvrir, le Marcelan et le Cinsault.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour au domaine Paul Mas pour cette émission en public et délocalisée. À mes côtés, toujours Philippe Faubrac, Moshi Bernstein et Jean-Claude Mas pour accueillir deux nouveaux invités. Ils sont formidables aussi, tous les deux, hein. Laurent Torregrossa et Hernan Ojeda. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Alors, Laurent, vous êtes enseignant-chercheur à Supagro Montpellier. C'est quoi votre métier?
Je fais de la recherche sur l'adaptation au climat, sur la vigne, bien sûr, et aussi je transmets mes connaissances à des étudiants en formation ingénieur ou master français et international.
D'accord. Et donc, vous faites que la vigne, votre job, c'est la vigne, quoi.
100%.
100%. Et vous, Hernan, vous êtes ingénieur à l'INRA, hein. Vous êtes argentin.
Je suis argentin.
Et vous avez toujours été passionné par le vin, quoi.
Oui, toujours. C'est vrai.
Et comment on passe de Buenos Aires à Montpellier?
Non, c'est pas Buenos Aires, c'est Mendoza.
Ah, Mendoza. Oui, alors c'est vrai que Mendoza, il y a un peu plus de vigne, peut-être. Oui. Et vous êtes arrivé en France il y a longtemps?
Oui, 2003, je suis arrivé. Oui. Donc, je travaillais avant dans une institution pareille à l'INRA, l'INTA, donc sur un sujet similaire, la vigne, c'est une unité expérimentale aussi. Donc, j'ai changé mon lieu de travail, mais pas mon sujet de travail.
Oui, super accent. D'ailleurs, petite parenthèse, ça n'a rien à voir, mais Sud Radio, on parle aussi de rugby. Le 21 septembre, un pronostic France-Argentine, alors. Vous nous laissez gagner quand même pour une fois, non? C'est sympa, non?
C'est vrai que l'Argentine a amélioré beaucoup les dernières années, donc ça, on a déjà la chance quand même.
On dira que vous faites les meilleurs Malbec.
Vous en pensez, Jean-Claude, un pronostic pour Argentine-France, et Philippe aussi, vous faites les malins tous les deux là. Combien?
Moi j'ai mis 21-18 pour la France.
21-18 pour la France, et vous Philippe?
20-15.
20-15. Bon, alors avant de parler donc des cépages, 20-15 pour la France. Hein.
Oui,
bon,
oui,
d'accord,
oui.
Pas de blague. Hein, c'est... Avant de parler des cépages Marcelan et Cinsault notamment, un sujet un peu douloureux concernant les maladies de la vigne. Alors, Jean-Claude, c'est quoi? Est-ce qu'il y avait des maladies? Est-ce qu'il y a des maladies? Est-ce qu'il y aura encore des maladies? Comment vous voyez ça, vous, avec vos différents hectares et ces 45
alors,
cépages?
Alors, les maladies cette année, une année sèche qu'on a, la plus effrayante, c'est l'ESCA, hein, la mortalité, la maladie du bois. Moi, je pense que ça, c'est de nouveau ce que je disais plus tôt, c'est la base qui est à revoir. Ces maladies qui se sont développées viennent d'un déséquilibre dans le sol entre, disons, ce qui protège, ce qui détruit. L'ESCA est un champignon, donc je pense que l'environnement fait qu'ils se développent. Et s'il y avait des champignons qui puissent, lutter contre celui-là ou se mettre en concurrence avec celui-là, on aurait un meilleur équilibre.
Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Aujourd'hui, je pense qu'on est allé, on a retravaillé très sérieusement. C'est pour ça qu'on travaille avec l'INRA à réfléchir sur des techniques. Par exemple, il y a un pralinage des porte-greffes, des greffons, je veux dire, des plans, des greffés soudés. Il y a un pralinage avec des mycorhizes pour leur donner plus de résistance à d'autres champignons. Donc, il y a des travaux qui ont été développés comme ça. Je l'avais développé il y a 8 ans avec une société, une start-up. Dans la notion de mycorhize. Et j'ai vu qu'en Israël, et au Liban, par exemple, c'est très développé, la mycorhize.
Oui, c'est vrai.
Vous avez le même type de maladie, vous voulez dire?
L'irrigation, le spectre d'irrigation sur les maladies, c'est important parce que c'est donner l'opportunité d'éviter ce type de maladies.
D'équilibrer la vie.
En général, l'irrigation, il faut bien comprendre que l'irrigation, ce n'est pas l'irrigation pour augmenter le rendement.
D'accord, on n'est pas là pour faire du volume.
C'est pour trouver le bon équilibré, exactement, le stress hydrique.
Oui. Alors Hernan, puis après Laurent. Hernan, vous en pensez
C'est par rapport à l'irrigation, justement. La recherche a montré que l'irrigation, maintenant, on peut la considérer qualitative. Si on la sait conduire, oui.
Notamment le verre.
Voilà, les outils, l'irrigation goutte à goutte, les outils pour la gestion de l'irrigation permet de travailler qualitativement l'irrigation. Donc on ne cherche pas à augmenter seulement le rendement, on cherche aussi à améliorer la qualité.
Très bien. Laurent, on revient aux maladies, donc elles ont toujours existé. Voilà, et là Jean-Claude me soulevait une petite problématique, même une vraie problématique.
Elles ont toujours existé, elles sont extrêmement diverses et avec les échanges, le mouvement de matériel végétal au 19e siècle, elles ont été partagées. Donc la vigne que l'on cultive, la vigne domestiquée, Vitis vinifera, a été domestiquée autour du bassin méditerranéen et elle se trouve donc très sensible à des variétés qui sont venues des États-Unis sans avoir de mécanisme de résistance aussi fort que les variétés qui sont aux États-Unis. Donc on a réussi à suppléer ces problèmes avec l'utilisation des fongicides. Et aujourd'hui, dans le contexte où il faut réduire l'utilisation des maladies, on se retrouve un peu en difficulté.
C'est une bonne nouvelle, non, de réduire un peu tout ça?
C'est une bonne nouvelle, mais ça nous pose des difficultés. Hein. Ce n'est pas tellement facile à réaliser lorsqu'on veut éviter le développement des maladies qui attaquent la vigne, mais aussi dégradent la qualité des raisins.
C'est ça.
C'est pas toujours favorable.
La conversation me fait penser à l'effet millésime, finalement. Avant, il y avait effectivement des années qui étaient bonnes, naturellement bonnes, d'autres qui étaient plus moins intéressantes. Aujourd'hui, on arrive à monter le niveau qualitatif, globalement, hein, un peu partout, hein, dans le monde entier, grâce à des approches techniques, à des équilibrages dus à l'irrigation, dus à l'utilisation de produits qui sont de plus en plus naturels. Hein. C'est vrai qu'on passe par différentes choses. Mais on gomme un peu, effectivement, l'effet millésime, notamment dans des terroirs traditionnels, peut-être.
Oui,
c'est la limite un peu de l'exercice.
Oui. Hernan ?
Oui, mais l'effet millésime est toujours présent. Quand on fait des analyses de données, de plusieurs années de données, et on analyse un ensemble de données, même avec différents types de traitements, conduits de la canopée ou traitements, finalement, c'est l'effet de millésime qui domine, toujours la qualité.
Ouais, cette année, une année très chaude, on n'a pas beaucoup de sucre. Ouais. Pour l'instant.
Ouais, voilà. Mais alors, comment on explique ça? Parce qu'effectivement, des blancs à 11 degrés avec 840 milliards de degrés par jour de soleil, qu'est-ce qu'il faut faire?
L'effet millésime, c'est tellement complexe, avec une telle quantité de variables qu'on ne considère pas, qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas maîtriser, que c'est toujours dominante. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant la vigne. Parce que même si on applique toutes les technologies, on peut diminuer l'effet millésime, mais jamais l'effacer.
Philippe, et après Laurent.
Non, mais l'effet millésime, il n'est pas juste, d'ailleurs, au niveau de la vigne. Bien sûr, c'est la vigne qui est ça. Il y a aussi tout le travail de vinif derrière.
Oui,
l'œnologie, qui a effectivement gommé pas mal de choses aujourd'hui et qui ont bien amélioré techniquement.
Alors, cette année, l'effet millésime, il a encore un autre effet. C'est que tout est mûr en même temps. Donc, en vinification, ça va être du sport.
Et puis, les vendangeurs, c'est ce chose aussi. Laurent ?
Oui, l'effet du climat, il est complexe, en fait. Je rebondis sur l'observation de Jean-Claude, là, qui disait que cette année, précisément, il y avait peu de sucre dans les raisins. Au moins, les premiers que vous avez récoltés, ça peut évoluer. Ouais. Mais ça peut tout à fait s'expliquer. On a eu des températures très élevées. Tout le sucre qui va dans le raisin, il vient de la photosynthèse. Au-delà de 30-32 degrés, la photosynthèse, elle diminue sa performance. Il y a de la contrainte hydrique, ça veut dire que l'estomac se ferme.
Alors, c'est quoi une contrainte hydrique, là? Parce qu'on est quand même une émission grand public, là. Le stress hydrique, c'est quoi? Vous stressez-vous, Laurent, par exemple?
Non, pas du tout. Non, la contrainte hydrique, c'est une limitation d'un paramètre physique qui est gérable par la plante et qui va réorienter son métabolisme. La vigne, lorsqu'elle est en situation de contrainte hydrique ou minérale, ça peut être une contrainte en azote, par exemple, ou en température, ça peut être très favorable parce que ça l'oblige à accumuler des composés d'intérêt. La couleur, des tanins, par exemple.
Donc, c'est se défendre, c'est s'organiser. Quoi.
Voilà. Au-delà d'une limite, ça devient du stress parce que ça limite la photosynthèse. Donc, elle n'assimilera pas de carbone, qui est la structure même des molécules. Et donc là, on va avoir une pénalisation en quantité et souvent aussi en qualité.
Alain, un petit mot sur les prospectives négatives. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouvelle maladie qui pourrait apparaître sur les 300 ans à venir?
Ça, je ne suis pas spécialiste de maladie, mais c'est sûr que s'il y a changement climatique, il va y avoir des modifications de tout l'équilibre qui est autour de la vigne, y compris pour les maladies et les ravageurs, pas les maladies seulement.
Les ravageurs. Une nouvelle race de vers de la grappe.
Oui, voilà. C'est pour ça que nous, on doit anticiper ça. Et un des travaux qu'on mène avec Laurent, à l'INRA, mais pas qu'à l'INRA, à l'IFV aussi, à l'Institut, c'est la possibilité d'anticiper avec des variétés qui sont résistantes, au moins anticiper pour certaines maladies.
Un point hyper important, résistant n'est pas OGM.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est ça,
il faut le crier parce que c'est encore sorti dans les papiers. Ouais. Résistant, il faut expliquer que ça vient naturellement avec des croisements naturels.
C'est un point important. Tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Claude, la viticulture, c'est de l'innovation et ça a toujours été de l'innovation en matière variétale, de mode de conduite et d'œnologie. Ouais. Aujourd'hui, on est confronté à la nécessité de s'adapter au changement climatique dans le sud de la France. On a des climats extrêmes. Et en même temps, il faut répondre à la demande sociétale qui demande de diminuer l'utilisation des intrants, l'utilisation des phytos. Donc ça, c'est deux challenges énormes qui ne pourront se régler qu'en, bien sûr, avec les variétés actuelles, en apprenant à mieux les cultiver, mais aussi par la création de nouvelles variétés. Ouais. Toutes les variétés qu'on cultive en viticulture aujourd'hui sont issues de la création variétale.
Donc est-ce qu'il faut que Jean-Claude investisse massivement en Angleterre ou en Écosse?
Non, dans l'innovation. J'adore cette remarque de Laurent qui est à la base de ce qu'est la vigne. La vigne vit d'innovation.
Bon, allez, on parle de ce cépage marcelin, Jean-Claude. On en parlait hors antenne. Hein. Il paraît que les Chinois l'aiment beaucoup.
Voilà, c'est le cépage. C'est un croisement entre le Cabernet et le Grenache. Ça a été développé en 1961. Et le jour mondial du marcelin, j'ai appris de M. Boursicot que c'était la date d'anniversaire de Pierre Truel, c'est ça, qui a inventé le marcelin.
C'était un ampélographe. Ouais.
Un ampélographe.
Au domaine de Vassal à Marseille.
Cépage exceptionnel qui fait des cabernets comme on les aime, quoi, des très grands cabernets.
Et les Chinois, donc Philippe Orbach, qui connaissait bien la Chine, ils l'aiment bien. Hein, ils l'aiment bien.
Ils se l'attribuent d'ailleurs. Pour eux, ils l'imposent même dans les plantations aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a à la fois les vertus d'une certaine fraîcheur du cabernet et en même temps la générosité un peu gourmande du grenache. Donc le résultat est intéressant.
Assez résistant. Il n'est pas très connu en France, quand même.
Et les Chinois, parmi tous les cépages qu'ils essayent depuis déjà de nombreuses années, ont focalisé ces derniers temps sur le Marseillais.
Et le Cinsault, Jean-Claude.
Donc inventé un Marseillais par.
Ah oui, c'est ça. On va le répéter. On peut peut-être
soulever pour le Marcelin que ce qui a limité sa diffusion en France, c'est principalement un frein réglementaire.
Ah, d'accord.
Parce que les viticulteurs, depuis très longtemps, savaient que ce cépage avait de qualité, mais dans les 22 pays, il y a des listes de variétés agréées et ce n'était pas facile.
Les Rambes, elle les a opées maintenant.
Le Cinsault, peut-être, Jean-Claude, vous en avez aussi dans la région?
Le Cinsault, c'est très intéressant parce que là, on est dans un équilibre économique. Il ne faut pas oublier qu'il y a un terroir n'existe que s'il y a un équilibre économique. Donc il faut des raisins dans des rendements corrects, avec une grande qualité, dont le vigneron peut se vivre. Et je pense que le Cinsault aujourd'hui, avec le développement du rosé pour les Cinsault de plus grande production et avec le développement de rouge, moi j'appelle ça le pinot du sud, le Cinsault, ça permet de faire des vins tout à fait à l'ordre du jour, on va dire.
Philippe, les deux cépages peuvent créer des vins de garde ou au contraire, c'est des vins plutôt à consommer jeunes, c'est d'un point de vue pratique?
Marcelin, oui. Sûrement, bien sûr. Le Cinsault, surtout lorsqu'il les sert vinifié du rosé, il n'a pas vocation à être gardé. Mais c'est un joli cépage, effectivement. Et le parallèle avec le Pinot Noir me plaît bien parce qu'il y a cette élégance-là, ce raffinement et c'est le peu de couleurs qu'on peut avoir est intéressant aussi.
Le manque de couleurs, là, tout le monde veut des rosés qui ne ressemblent pas à des rosés, mais à des blancs. Ça, c'est un support David Gobel.
Le grenache gris, le Cinsault, c'est pas mal.
Il nous manque.
Et pour les rouges, c'est l'inverse.
Il faut pas faire
pour les rouges, c'est l'inverse. Bon, on aura l'occasion d'en parler en tout cas. Merci à vous, tous les cinq, Laurent, Moshi, Hernan et Philippe. Et puis Jean-Claude, on a appris grâce à vous beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou alors invinoradio.fm. Alors, on se retrouve demain, toujours ici, à 12h30, pour une nouvelle émission relations publiques et délocalisée au domaine Paul Mas avec de nombreux sujets. On parlera notamment de gastronomie, des enjeux également pour les grands vins d'Occitanie avec nos prochains invités. Paolo Bucanova, qui est le responsable des achats et le directeur commercial de Bacchus, Repère de Bacchus, et l'excellent chef étoilé des Jardins de l'Opéra à Toulouse, une super adresse à ne pas louper, Stéphane Tournier. Messieurs, bravo, vous êtes formidables. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, surtout, c'est le moment pour le déjeuner, respectez la plus grande démodération.
Sud Radio, Invino.